C'est quelque chose d'assez particulier de se rendre compte que quand on lit la parole de Dieu, on ne l'épuise pas. Alors, vous l'avez constaté encore ce soir, que l'on peut prêcher et puis donner une étude biblique sur un sujet qui a été traité récemment et puis dire des choses supplémentaires et qui ne sont absolument pas contradictoires, qui sont complémentaires même. Et si bien que on se rend compte de notre petitesse et de la grandeur de la parole de Dieu. Alors ça c'est vous avez devant vous l'expérience hein, de la chose. Et si vous avez entendu quelque chose, eh bien dites-vous que Dieu peut encore vous parler et que la parole de Dieu n'est pas épuisée. On a cette impression qu'on est allé au bout de la question et puis quelqu'un vient et parle. Et puis vous dites, mais j'y avais pas pensé. Eh ben oui, on n'y a pas pensé parce que le Seigneur nous a pas parlé. Il parle aux frères, il nous a pas parlé à nous. Il nous a parlé à un certain moment, il nous a donné certaines choses, et puis à un autre, il va donner d'autres choses qui sont complémentaires, qui vont à la suite les unes des autres. Mais c'est tout ça est très bien. Le passage que nous allons voir ce soir est beaucoup plus long que les autres. C'est pour ça que nous n'allons pas lire les chapitres, parce que c'est les chapitres 12, 13 et 14 jusqu'au verset 5. Donc c'est vrai que c'est un très long passage, mais en fait c'est une sorte de récapitulation. Et c'est, je pense à ce cantique où il est dit « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est les moments où dans notre vie chrétienne, eh bien, on s'arrête et on compte les victoires. On compte là où le Seigneur nous a conduits, ce qu'il a fait pour nous. Non pas nos victoires, mais comment le Seigneur a eu la victoire en nous utilisant. Comment il a fait des choses merveilleuses. Et c'est très bien d'avoir des réunions de témoignages, des réunions de commémoration, des moments où on s'entretient des bénédictions de Dieu. Il y a ce passage de l'Épître aux Hébreux qu'il est dit d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alors c'est vrai que c'est bon pour le témoignage, c'est un très bon verset pour votre témoignage dans la rue, mais c'est un très bon verset aussi pour votre témoignage auprès des frères et sœurs. Et combien de fois on encourage un frère et une sœur parce que on est passé par le même chemin et le Seigneur nous a délivrés. Et on dit, oui, c'est vrai que tu as ce problème, mon frère ou ma sœur, mais j'ai eu un problème semblable aussi. Et j'ai expérimenté la fidélité de Dieu. Toi, tu en es à te poser des questions. Mais moi, je suis là comme témoin et je témoigne de la fidélité de Dieu. On s'arrête, il y a des moments où on s'arrête pour adorer. On s'arrête pour commémorer. On s'arrête pour se souvenir. Le 9 novembre, nous avons l'anniversaire de l'Église. C'est un moment mémorable, hein, si je puis m'exprimer ainsi. C'est un moment que l'on souligne, on se rappelle que le Seigneur, à un certain moment, eh bien, nous a conduits. Il y avait des pas de foi à faire et le Seigneur a conduit. Et nous, en regardant avec un regard rétrospectif, on se dit oui, mais voilà 9 ans qui se sont passés. 9 ans où le Seigneur était avec nous. 9 ans qui n'ont pas été sans épreuves, qui n'ont pas été sans difficultés, mais qui n'ont pas été sans le soutien de Dieu non plus. 9 ans où le Seigneur a dirigé les choses, où il nous a bénis, il nous a encouragés. Il a ajouté à notre nombre de chers frères et sœurs que nous voyons grandir dans la foi. Nous nous réjouissons. Parce que l'Église de Dieu grandit, et si elle grandit à la gloire de Dieu, alors tout est bien. Si elle grandit à la gloire d'un homme, tout est mal. Voilà. Donc nous sommes arrivés au moment de la fin de la vie de Josué. Il y a encore des chapitres, hein, mais Josué arrête le combat parce qu'il est âgé. C'est dit au verset 13, chapitre 13, verset 1. Josué était vieux, avancé en âge. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es avancé en âge, et le pays qui te reste à soumettre est très grand. Voilà. En fait, c'est l'heure où il doit faire un bilan. Et donc, le bilan était au chapitre 12 aussi déjà. où ils ont passé en revue les rois qui ont été vaincus, le pays conquis et les rois, les puissances. Il y a 31 rois. 31, c'était pour se remettre dans la situation, il y avait à cette époque des villes-États. Il y avait des peuples, mais les peuples n'étaient pas unis. Il y avait des tribus, comme en Israël, pareil, hein. Et plus ou moins, chaque grande ville était la ville d'une tribu au sein d'un peuple. Alors, chaque roi était une sorte de potentat, de petit roi, dans un petit territoire. Et quand on fait des fouilles archéologiques, on se rend compte même qu'il y avait des règnes brillants. Et brillants, avec de l'or, de l'argent et pas mal de choses. Il y avait du commerce, il y avait énormément une civilisation très poussée, hein, très avancée. On ne s'imagine pas toujours que ces peuples avaient des civilisations qui valaient d'autres, hein. Il n'y a pas de comparaison à faire. Chacun vit à son époque. Mais ce n'est pas à cause de leur civilisation que Dieu les a jugés et qu'ils ont été vaincus par Israël, c'est à cause de leur péché. Les questions de civilisation, c'est encore autre chose. Mais là, il y avait des peuples, des rois, qui se sont rebellés contre Dieu. Alors, déjà du temps de Moïse, d'Abraham, Dieu avait dit qu'il donnerait à la descendance d'Abraham la possession du pays qu'occupaient ses rois. Et là, nous voyons que Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu avait promis et il l'a fait. C'est avec les limites humaines, parce que quand on lit la suite, on voit que le peuple n'a pas conquis tout le pays, que le peuple n'a pas eu toute la foi qu'il aurait dû avoir, même si ils ont été vaillants, même s'ils ont sont allés loin, mais ils n'étaient pas sont pas allés si loin qu'ils devaient aller. C'est comme cela. Mais le problème, ce n'est pas c'est que l'homme, eh bien, avec sa petitesse, avec sa faiblesse, handicape parfois le plan de Dieu et le déroulement des activités que Dieu voudrait faire. Dieu avait fait des promesses à Abraham et il les a tenues. C'est dans les limites de la faiblesse humaine. Et alors, ce que l'on peut se souvenir, eh bien, c'est que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et là, nous voyons un double aspect à la fidélité de Dieu et aux promesses de Dieu. C'est l'histoire des Gabonites nous le rappelle, hein. C'est-à-dire que Dieu avait fait des promesses positives à Abraham, mais en quelque sorte, ce sont des promesses négatives pour ces peuples. Et les Gabonites ont compris le côté négatif de la promesse de Dieu. Alors ils se sont dit, nous sommes sous le coup d'une promesse négative, d'une promesse de jugement. Et alors ils ont tenu compte de la promesse de jugement et ils sont revenus de leur idolâtrie, de leur rébellion contre Dieu. Voilà. Mais les autres, eh bien, étaient sous le coup de la promesse négative de Dieu. Comme Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'il donnerait ce pays à la descendance d'Abraham, et en l'occurrence c'est Israël, eh bien le peuple a conquis le pays, mais au détriment des personnes qui occupaient le pays. Parce qu'il y avait une promesse négative. Tenez toujours compte de la lumière et des ténèbres. Il y a quelque chose que Dieu dit. Et il y a quelque chose que Dieu ne dit pas. Et ce que Dieu ne dit pas est aussi important que ce qu'il dit. Et quand il dit quelque chose, cela implique souvent le côté négatif. Si nous marchons dans la lumière, et Dieu nous recommande de marcher dans la lumière, ça veut dire qu'il est possible de marcher dans les ténèbres. Si Dieu dit qu'il nous bénit quand nous marchons dans la lumière, ça veut dire que quand nous marchons dans les ténèbres, eh bien nous n'avons pas la bénédiction et au contraire, nous avons même le jugement de Dieu. C'est donc très très important de voir et de faire le bilan et de se rappeler ce que Dieu a dit. Parce que si nous en tenons compte, nous en avons le bénéfice. Si nous n'en tenons pas compte, nous en avons le désavantage. Non seulement nous n'avons pas obtenu la promesse dans son côté positif, mais nous avons obtenu parfois un châtiment. Et il y a des chrétiens qui sont sous un châtiment de Dieu. Et le châtiment que nous voyons le plus souvent, c'est l'endurcissement du cœur. C'est les yeux qui se ferment. C'est le manque de capacité de discerner, manque de discernement. Et c'est ce qui caractérise quasiment l'Église de notre époque, ce manque de discernement. C'est nous marchons comme des aveugles. Alors que dans le passé, les chrétiens avaient une vision. Ils voyaient. Ils disaient, il faut évangéliser le monde entier. Il faut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous lisez l'histoire des missions, et j'ai le privilège de posséder plusieurs journaux des missions au 19e siècle. Et les lettres des missionnaires, et les rapports, et les comptes rendus, je les ai lus. Bon, pas tous, hein, mais j'en ai lu pas mal. Pour me rendre compte qu'il y avait cet esprit de conquête, cette vision d'aller porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Il disait, il y a encore dans ce pays des tribus qui ne connaissent pas l'évangile. Des missionnaires ne sont pas allés. Et il y avait même un missionnaire français, hein. On cite beaucoup d'Américains, mais il y a un missionnaire français, François Coillard. C'était un jeune homme, il était de Bourges, c'est voilà, en Berry, hein. Il est allé étudier, il est allé en Afrique et il a annoncé l'évangile. Et puis un jour, il a dit, il y a des tribus là-bas, dans le Haut Zambèze, qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Et il a sollicité l'autorisation de la part de la mission d'aller implanter un poste missionnaire là-bas. Et il l'a fait. Et il a eu beaucoup de fruits, beaucoup de résultats, à la gloire de Dieu. C'était des gens qui avaient une grande vision, qui voyaient, et ils avaient peu de moyens. Peu de moyens. Quand vous lisez ces histoires, souvent, on parle de cimetière, hein. Un missionnaire arrivé, 3 mois plus tard, il était mort, hein. On se réjouissait. Nous avons un médecin parmi nous qui va pouvoir. Paf, le médecin était mort. C'était fini. Et puis, souvent, ils ont enterré leurs femmes et leurs enfants. Je pense à Adoniram Judson. Il s'est marié 3 fois. Il a enterré ses 3 femmes, hein. Et les enfants aussi. Il est resté seul. Il est parti. Je ne sais plus, je pense qu'il avait 29 ans quand il est parti. Il n'est jamais revenu aux États-Unis. Il est mort en Birmanie. Ils ont planté l'évangile de toute leur énergie, de toute leur force, de toute leur foi. Ils l'ont payé de leur sang. Mais cet esprit missionnaire, cet esprit de conquête ne se trouve plus. Vous avez des gens, je me rappelle je ne veux pas citer de nom parce que c'était quelque chose d'assez triste. Il y avait un pasteur qui voulait s'établir dans une église. Et il a dit, eh bien, s'il n'y a pas 60 personnes et si je n'ai pas tel salaire, ce n'est pas la peine de compter sur moi. Alors ils ont fait. Il y avait des espions, des gens qui allaient dans les églises aux alentours pour récupérer ce qu'on appelle les électrons libres dans les églises et récupérer. Il y avait des trucs et ils ont travaillé à la destruction des églises et pour établir ce fameux. Et finalement, il est arrivé. Voilà, il y avait 60 personnes et il avait un salaire important. Peux vous dire, il n'y a pas d'esprit missionnaire. Il n'y a pas de zèle, parce qu'on est prêt à aller, même là où c'est difficile, même là où on risque sa vie, même là où nous allons passer des années, même si nous ne voyons pas de fruits tout de suite, eh bien, on continue et on persévère et on s'acharne, parce que on sait que c'est la volonté de Dieu. C'est cet esprit missionnaire. Et le peuple d'Israël ici, eh bien, avaient cet esprit de conquête. Et ils ont vu de grandes choses. Ils ont vu Dieu agir. Et parce que il y avait des promesses. Dieu avait dit. Et ils ont dit, Dieu a dit. Et ils ont avancé parce que Dieu avait dit. C'est ce qui est très important, c'est de savoir ce que Dieu dit. La plupart des chrétiens ont une petite idée de ce que Dieu dit. Alors tout est vague, tout est incertain. Et le jour où il y a une épreuve ou une tentation ou un moment difficile, eh bien, toute leur science disparaît à ce moment-là. Mais le roc sur lequel notre vie chrétienne est posée, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, c'était une promesse aussi certaine que quand il a dit que la lumière soit. Il a dit que la chose devait arriver. C'est comme cela. Dans notre vie chrétienne, on doit avoir des promesses. On doit s'appuyer sur la parole de Dieu. On doit savoir ce que Dieu nous a dit d'une manière positive. Parce que c'est là qu'est notre assurance. C'est là qu'est la fondation de notre vie chrétienne. C'est là que nous avons, même pour un serviteur de Dieu, c'est là qu'est la fondation de son ministère. Dieu a parlé. Il a dit. Il a fait des promesses. Et ce qui est très important, c'est de lire la parole de Dieu en notant les promesses que Dieu a faites. Si il a dit ne vous inquiétez de rien, alors ne vous inquiétez de rien. Parce que Dieu a fait la promesse. Il l'a dit. Si il dit que le juste vivra par la foi, eh bien, le juste vivra par la foi. S'il est dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir, cela veut dire ce que ça veut dire. C'est beaucoup de personnes cherchent, oui, mais ça c'était, mais il faut pas le prendre, mais j'ai la faiblesse de lire la parole de Dieu et d'avoir choisi de la lire comme un enfant, c'est-à-dire de ne pas chercher de complications. Bon, c'est vrai qu'il y a des passages qui sont plus durs que d'autres, hein. Un enfant, on ne peut pas avoir un regard d'enfant. Mais néanmoins, quant aux promesses de Dieu, je veux avoir un regard d'enfant. Qu'est-ce qu'un enfant penserait si, quand on dit le juste vivra par la foi, s'il a compris ce que c'est que la foi, si on lui a expliqué. Mais ils comprennent vite, hein. Ne les prenez pas pour ce qu'ils ne sont pas. Ils sont beaucoup plus intelligents que vous le pensez et ils ont vite compris. S'ils ne peuvent pas vous donner une définition de la foi, ils peuvent en tout cas vi vivre dans le principe de la foi. Ils connaissent le principe, mais ils ne vont pas vous donner une définition théologique. Ça, il ne faut pas compter sur eux là-dessus. Mais après, pour vivre par la foi, oui. Je me rappelle un jour, c'était Jean-Marc. Il y avait toute une histoire au sujet de quelque chose qui avait été acheté et qui ne devait pas être acheté. Et donc, c'était dans un coin et ça ne fonctionnait pas. Alors, il y avait le ticket de caisse qui était avec et il fallait le rapporter. Et moi, j'ai dit ça, c'est pas mon affaire, je ne veux même pas m'occuper, c'est quelque chose que je ne veux pas avoir à la maison. Et alors, bon, Et puis, un moment, je l'ai pris, je l'ai amené au magasin. Je l'ai changé, je l'ai ramené, je l'ai posé dans le coin, je n'ai rien dit à personne, parce que je sais même pas pourquoi j'avais agi comme ça, parce que j'étais contre ce que j'avais dit. Et alors, Jean-Marc est venu, il m'a dit, Papa, je te remercie d'avoir fait changer le paquet. J'ai dit, comment tu sais que j'ai changé le paquet? Il n'était même pas allé le voir, il n'a même pas essayé. Alors, j'ai dit, comment tu le sais que je suis allé? Il m'a dit, je l'ai demandé au Seigneur. Et moi, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait quelque chose que j'avais décidé de ne pas faire. C'est comme ça. Et c'était le lendemain, c'était fini. On ne pouvait plus l'échanger. C'est comme ça. Les enfants connaissent le principe. Ils connaissent le principe de la prière. Ils savent exactement aller. Ils savent comment il faut faire, hein. Et beaucoup d'enfants en ce genre de réponse à la prière. Ce n'est pas un cas isolé, hein, et je ne vous le cite pas parce que c'est Jean-Marc. Mais il y en a d'autres, hein, qui font la même chose. Et eux, ils savent prendre Dieu au mot, les promesses de Dieu. Dieu a parlé. C'est le roc des promesses de Dieu. Alors, parfois, nous n'avons pas les définitions. On ne sait pas tout expliquer. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous mangez votre nourriture, est-ce que vous savez de quoi est composée? le pain ou la viande. Vous connaissez la formule chimique? Est-ce que la formule chimique va vous nourrir? Non. Vous pouvez connaître la formule chimique des aliments et ne pas avoir les aliments sur votre table et de mourir de faim. Mais si vous avez la nourriture sur la table et vous pouvez pas connaître la substance elle-même, ce comment elle, mais vous bénéficiez de la nourriture et votre corps en est nourri et en a les avantages. C'est comme cela. On n'explique pas tout, mais néanmoins, on est tenu pour vivre. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous a donné des promesses. Et il tient à ce que nous vivions selon ses promesses. Et c'est ce qui s'est passé avec ce peuple d'Israël quand il est entré dans le pays de la promesse. Dieu avait fait des promesses. Alors, c'était le temps où les promesses devaient s'accomplir. Elles auraient dû s'accomplir 40 ans plus tôt. Mais par l'incrédulité de la génération précédente, ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. La génération qui est entrée dans le pays n'a pas commis les mêmes erreurs. Et elle a suivi Josué et elle a vécu dans les promesses de Dieu, dans les commandements de Dieu. Et c'est comme cela qu'ils avaient la victoire. Et c'est comme cela qu'ils ont pu commémorer et dire il y a 31 rois qui ont été vaincus. Tout ce pays-là a été conquis sur les Amoréens, sur les autres, hein, je n'ai pas tous les noms en tête, mais ils ont conquis sur tous ces peuples parce que Dieu avait fait les promesses. Et ils ont tenu compte des promesses. Et à un moment, ils se disent, mais on se rappelle, on se souvient que Dieu a agi de cette manière, il a fait ceci, il a fait cela, ils se réjouissent de ce que Dieu a fait. Mais ils se réjouissent parce qu'il y a eu l'obéissance, parce qu'ils ont marché par la foi, ils ont suivi les directives de Dieu, se sont appuyés sur ce que Dieu avait dit. Et ils ont expérimenté que Dieu était avec eux, et que Dieu les soutenait, et que Dieu leur donnait de la force, et que non seulement ils faisaient tout cela, mais qu'en plus Dieu combattait leurs ennemis. Et ils ont vu parfois les ennemis prendre la fuite sans même qu'ils aient à combattre, parce que Dieu était avec eux. Ils ont même vu, hein, le soleil s'arrêter. C'est Josué a pu arrêter le soleil. Imaginez, c'est la seule fois il s'est dit, hein, quand on l'a vu, où Dieu a écouté la voix d'un homme et il a arrêté le soleil. C'est la seule fois où ça s'est fait, et c'est presque un jour entier. C'est quelque chose. Alors tous ceux qui lisent la Bible, les incrédules, hein, ils rigolent bien de ce passage. Hein. Mais vous savez, quand on croit à la promesse de Dieu, eh bien, il n'y a pas de problème. Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable d'intervenir. Il est capable d'agir bien au-delà de tout ce que l'on peut imaginer ou penser. Il s'agit simplement de se confier, de croire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Mais, comme je vous ai dit, il y a ce que Dieu a dit, c'est positif, mais cela implique le côté négatif obligatoirement. Parce que si on ne suit pas, on est au désavantage des promesses de Dieu. Et ces promesses-là, eh bien, quand on n'y obéit pas, contiennent un jugement. On dit oui, mais nous sommes dans une drôle d'époque. Oui, mais les choses ne se passent pas comme dans le passé. Les chrétiens avant, ils voyaient plus de résultats quand ils évangélisaient. Oui, parce que nous sommes au désavantage des promesses. On ne se confie pas dans ce que Dieu a dit dans sa parole. Dieu a dit que nous devions prier, que nous devions intercéder pour ce monde, que nous devons prier les uns pour les autres, que nous devons nous encourager les uns les autres, que nous devons être des frères et des sœurs les uns pour les autres. Mais quand on vit dans notre petit monde individualiste et égoïste, et que nous nous soucions de notre propre personne, eh bien nous sommes au désavantage des promesses de Dieu. Parce que l'Église, c'est un corps. Et c'est le peuple d'Israël, ce n'est pas Josué qui a conquis il était le chef de l'armée d'Israël, c'était le général en chef, on peut dire, mais ce n'est pas lui qui a conquis. Ce n'est pas le peuple, mais c'est Josué et le peuple, avec le soutien et la force de Dieu. Ils ont obéi ensemble aux ordres de Dieu. Si Josué avait dit, bon, ben, écoutez, vous ne voulez pas obéir, moi j'obéis. Ce n'était pas une bonne idée. Il fallait que ce soit tous ensemble. Ce n'était pas un ou deux. C'était toutes les tribus d'Israël. Même les tribus qui avaient déjà pris possession de l'autre côté du Jourdain, hein, ils étaient déjà établis. Il y avait deux tribus et demie qui s'étaient déjà établies. Eh bien, ces deux tribus, elles sont allées pour conquérir le pays. C'était tous ensemble. Et Dieu avait ordonné que ce soit tous ensemble. Et la bénédiction était liée à tous ensemble. C'est et bien souvent, eh bien, nous manquons les promesses de Dieu parce que les choses ne se passent pas comme Dieu l'a dit. Nous ne prenons pas en considération les directives de Dieu. Je vous encourage très fortement à méditer la parole de Dieu pour découvrir les promesses de Dieu, les promesses que Dieu a faites, mais pas seulement une promesse que Dieu vous a faite. Il peut vous avoir fait une promesse, hein. Dieu m'a fait des promesses. Il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a très longtemps et j'attends toujours leur réalisation. Il y a une promesse que Dieu m'a faite en novembre 92. J'ai vu une partie de la réalisation, mais je n'ai pas la réalisation encore. Dieu, j'attends qu'il le fasse. Et il tarde, mais il l'a dit, il le fera. Ce sera à son heure, mais il le fera. Vous avez des promesses, donc promesses personnelles, mais il y a des promesses qui s'adressent à tous. Ces promesses-là, eh bien, soulignez-les bien dans votre Bible, notez-les, apprenez par cœur ces promesses et tenez-vous ferme sur le roc de la promesse de Dieu, parce que Dieu a fait des promesses à son Église. Il a fait la promesse à ceux qui croient. Il a fait des promesses à ceux qui intercèdent. Il a fait des promesses à ceux qui témoignent. Il a fait des promesses à ceux qui avancent, qui marchent. Ce sont des promesses qu'il faut tenir. Pour certaines, il faut les noter. Dieu ne peut pas nous dire quelque chose qui n'est pas. Voilà, et on ne l'a pas lu, et bon, on ne le sait pas. C'est tout. On est dans l'ignorance, mais parfois notre ignorance, eh bien, est coupable parce que nous n'avons pas cherché à savoir. Et puis on ne tient pas non plus à savoir, parce que si on savait, ça nous engagerait. Et je vous encourage à apprendre des passages de la parole de Dieu par cœur, à les méditer, à les approfondir et à voir là où vous êtes engagé devant Dieu par la promesse. Parce que, comme je vous ai dit, une promesse, et c'est la parole de Dieu, elle est à deux tranchants. Toujours. Faites bien attention, la parole de Dieu coupe dans deux sens. Il y a un côté négatif et un côté positif. Ensuite, eh bien, on va pas aller beaucoup plus loin, mais vous avez par exemple au chapitre 13, verset 22. Parmi ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr par l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Vous avez là, il se rappelle, cet homme avait fait énormément de mal à Israël, ou du moins, il avait l'intention, parce que Dieu ne l'a pas laissé faire. Mais c'est dans la deuxième épître de Pierre ou Jude, je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais où il est dit qu'il a incité le peuple à se livrer à la débauche. Alors que ce n'est pas dit dans les Nombres, hein, dans l'histoire, c'est quelque chose qui est supplémentaire, qui vient en plus, hein. Et donc on voit qu'il était un homme pervers, pernicieux, qu'il n'a pas pu maudire le peuple, mais il savait. Parce que lui, il connaissait le côté négatif. Il s'est dit, ils sont sous la bénédiction de Dieu, d'accord. Mais s'ils pêchent, alors ils sont sous la condamnation. Parce que la condamnation, c'est une promesse de Dieu aussi. Et Dieu est fidèle à ses promesses. Les promesses positives et les promesses négatives. Donc, il a dit, si le peuple se livre à la débauche et sacrifie aux idoles, alors il est maudit. On n'a même pas besoin de prononcer une malédiction sur lui. Dieu va s'occuper de lui et va le juger. Et il est dit, 22 000 tombèrent hein, ce jour-là. 22 000. C'est énorme. Mais donc c'est cet homme-là. Et ils se rappellent, ils se disent, mais cet homme est mort aussi. Il n'est pas retourné chez lui. Hein. Il semblerait que la maison de Balak, que Balak lui a donnée, eh bien, était sur là où il fallait pas. Et alors, mais la parole de Dieu nous dit, cet homme-là vous a voulu du mal, et Dieu s'est occupé de lui. Un jour, ils l'ont retrouvé parmi les morts. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mais c'est Dieu prend soin de ses enfants et il nous délivre des méchants. Il nous délivre de ceux qui veulent nous faire du mal. Et là aussi, on doit se souvenir, dans telle situation, Dieu m'a délivré. Il y avait telle personne qui me faisait du mal, telle personne qui critiquait dans mon dos, quelqu'un qui agissait, qui faisait cela, et Dieu réduit à rien. Ils sont partis comme des eaux qui s'écoulent, hein, c'est David qui dit ça. Comme des eaux qui s'écoulent. Puis un rayon de soleil vient, il y a l'eau qui a coulé là. C'est fini, ça s'est écoulé. Dieu est intervenu pour nous délivrer. Non seulement il y a la conquête, mais il y a aussi la délivrance. Et puis, il est dit, on termine là, chapitre 14, verset 5, les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse et ils partagèrent le pays. C'est une belle parole, hein? Ils se conformèrent et ils partagèrent le pays. Pour partager le pays, il faut l'avoir conquis. Comme on dit dans une fable bien célèbre, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ils ont partagé le pays qu'ils avaient conquis. Ils n'ont pas partagé avant. C'est un pays conquis qui a été partagé. Et c'est là que nous éprouvons aussi que la promesse de Dieu s'est fidèlement accomplie. Parce que non seulement ils ont eu une promesse, mais ce n'était pas un rêve. Ce n'est pas quelque chose qui était posé sur le sable. C'est une réalité. Ils ont partagé quelque chose qui existait vraiment. Ce n'est pas des rêves. C'est la réalité. C'était quelque chose de tangible. Alors, il y a une partie de foi, et tout commence par la foi. Mais après, il y a la vue. On voit l'exaucement et comment Dieu est intervenu. Et on peut dire, Dieu nous a donné et il a fait. Et on peut comptabiliser et on peut dire, voilà, il y a tant de villes, il y a tant de rois, il y a tant de terres, il y a tant de ceci, tant de cela, parce que Dieu est intervenu. C'est la promesse de Dieu, ce ne sont pas des paroles. Il y a justement dans un des prophètes quelqu'un qui disait parole de l'Éternel, c'est-à-dire c'est des choses qui arrivent jamais. Les paroles de l'Éternel sont certaines. Elles sont beaucoup plus certaines que le lever du soleil demain. Mais il est vrai aussi que Dieu ne répond pas tout de suite et que parfois il faut attendre. Il faut attendre des années. Moïse a attendu et le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert. Abraham a attendu 25 ans, le fils de la promesse, etc., etc. Combien de fois des gens ont attendu la promesse de Dieu? Mais notre fidélité, c'est d'attendre jusqu'au bout. Dieu a fait la promesse. Alors, il n'y a rien de plus certain que les promesses. Fiez-vous aux promesses de Dieu. Appuyez votre vie sur les promesses de Dieu. Regardez aux promesses de Dieu. Dieu a dit. Il a dit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes jamais seul. Jamais. Vous pouvez aller n'importe où. Il est toujours avec vous. C'est une promesse certaine. Et je peux vous dire combien de fois je me suis appuyé sur cette promesse, que Dieu est toujours là, dans les moments difficiles, comme dans les moments faciles, dans les moments où on chante les cantiques, comme dans les moments où on a des soucis. Il est toujours là. C'est des promesses. Et c'est bien de commémorer, de se rappeler, de faire des souvenirs et de dire Seigneur, je te rends grâce parce que tu es délivré, tu es intervenu. Et même quand vous lisez les psaumes, vous voyez combien de fois dans les psaumes, il est question de louanges pour des délivrances de Dieu dans le passé. C'est, il se rappelle de la sortie d'Égypte, comment on a ouvert la mer rouge, comment Dieu a délivré son peuple, comment il l'a nourri. Mais il se rappelle de leur faillite, de leur défaite, de ce qui n'était pas tout à fait conforme. Même David a écrit un psaume pour souvenir. Voilà. Et ce n'était pas pour sa gloire, hein. C'était un souvenir de ce qui était tombé. Et puis il se rappelait aussi comment il avait été délivré, comment Dieu était intervenu, comment Dieu l'avait délivré des Philistins. C'est rendez grâce à Dieu, n'oubliez pas. Dieu intervient, Dieu agit, Dieu fait des choses merveilleuses. C'est ce que qu'enseignent ces chapitres, hein. C'est le Dieu est intervenu. Alors, notre responsabilité, à un moment, c'est de nous arrêter et de dire, Seigneur, je te rends grâce. Tu as fait des choses merveilleuses. Tu es allé jusqu'au bout de tes promesses. C'est moi qui n'étais pas à la hauteur. Si je n'ai pas eu les promesses plus tôt, si je n'ai pas eu le bénéfice aussi grand que tu l'avais dit, c'est parce que j'ai manqué de foi. Je n'ai pas été persévérant. Je n'ai pas été suffisamment actif. Je ne me suis pas vraiment donné. Je n'ai pas vraiment été consacré. Ce n'est pas toi qui es en faute. C'est moi. Mais toi, tu es absolument sans reproche. Toutes tes promesses sont fidèles. Ta fidélité est parfaite. Et tu sauras faire exactement, bien au-delà de tout ce que je peux te demander ou penser ou espérer. Parce que tu as parlé et tu as fait des promesses.